Bonjour à tous.
Et permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
On est dans la récréation.
On vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
Moi j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
Pour moi un projet, c'est un truc bien, mais je ne croyais pas que ça allait être bien comme ça.
Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
En fait le pari il est là et il est quand même très ambitieux.
Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
Alors que la rentrée sonne pour moi le temps des retrouvailles avec les collègues, des rencontres avec les nouveaux, de la découverte des listes d'élèves et que le mois de septembre souffle sur mon quotidien un vent d'agitation joyeuse, pour certains élèves, ce retour en classe est plutôt synonyme d'angoisse, voire de terreur. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes à ne plus parvenir à reprendre le chemin de l'école ordinaire. Certains de ces adolescents, en rupture avec le système scolaire, auront alors peut-être la chance d'intégrer un micro-collège. Au nombre d'une vingtaine en France, ces structures de retour à l'école permettent aux jeunes de se rescolariser, d'obtenir le brevet et de pouvoir s'orienter vers une poursuite d'études. Avant la pause estivale, dans l'épisode précédent, je vous avais embarqué à la découverte d'un micro-lycée. Ce mois-ci, le micro est dans la classe, vous emmène dans le micro-collège d'Amiens, qui accueille des élèves décrocheurs plus jeunes, mais tout aussi touchants.
Je m'appelle Lila, j'ai 14 ans et je suis en troisième choix au micro-collège. J'ai eu une scolarité compliquée où j'ai jamais été à ma place en cours et j'ai toujours eu de l'avance. Du coup, j'ai sauté une classe et après, même une fois que j'avais sauté, je continuais d'avoir un aménagement spécial. Je me concentrais en fait à faire n'importe quoi pour essayer de compenser mon ennui. Et du coup, c'était très compliqué comme relation aux autres. Et quand je suis arrivée au collège, j'ai fait une année de sixième très très peu constructive. Et j'ai décroché parce que j'ai fait une dépression. Et je finis à l'hôpital et tout, bref, voilà. Mais le fait de... Même quand j'étais pas bien, et même quand je me sentais pas comprise, et même quand je m'aimais pas moi-même, ici, on prenait du temps pour moi, on essayait de me comprendre. Et j'ai compris pourquoi je devais aller... en cours, parce que ça a longtemps même encore été depuis l'année dernière où je suis partie d'ici. J'ai sauté partie à la clôture et je suis entrée. Mais où j'ai longtemps vu l'école comme une obligation, alors que maintenant je viens volontairement. Et même si je pouvais ne plus venir, bon, peut-être que je raterais quelques jours, mais je viendrai quand même. En fait, ça reste la même institution, sauf qu'avant je voyais que le négatif, alors que maintenant je vois et le négatif et le positif. Mais je me concentre sur le positif et j'essaie de développer ça. Et où je vois ça comme une micro-société où on apprend des choses, mais on apprend des choses intellectuellement, mais on apprend aussi le savoir-vivre, la compréhension de l'autre, savoir survivre et accomplir une tâche obligatoire jusqu'au bout et de manière satisfaisante, qu'on le désire ou non.
Donc je suis Emma Croisé, je coordonne le micro-collège d'Amiens depuis son ouverture, donc en septembre 2020 pour la création de la structure et janvier 2021 pour l'accueil des premiers élèves. Et je suis enseignante de lettres modernes. Poste à profil sur une diffusion académique, j'ai postulé, il y a eu un entretien, il était retenu et voilà, je suis arrivée au micro-collège. C'était vraiment de la curiosité. On était en pleine fin de confinement quand l'offre de poste a été diffusée. Et par curiosité, je m'y suis intéressée. J'ai fait des recherches sur les micro-lycées. Et effectivement, jusqu'à présent, il y avait très peu de choses sur les micro-collèges. Mais j'étais sensible, je pense, à cette thématique. Et ça m'a motivée à tenter l'aventure. Alors, donc moi, j'enseigne 9h30 cette année devant les élèves. Que ce soit en français, en tech, en temps de travail en classe, en séance d'accueil ou de bilan de semaine, donc des séances qui ont plus trait aux fonctions de professeur principal. Et le reste du temps, je coordonne la structure. Alors, nous accueillons 34 élèves répartis sur deux modules. Donc, le module de rescolarisation qui correspond à de la quatrième, donc 17 élèves, et de nouveau 17 élèves sur le module diplômant en troisième. Alors, quand les élèves arrivent en quatrième, ils mènent leur année scolaire. Et à la fin de l'année, on se pose la question avec eux et avec les familles de la poursuite. La très grande majorité de nos élèves poursuivent en troisième et ce diplôme chez nous. L'expérience montre que plus on a de temps au sein de la structure et plus l'élève finalement ressort solide aussi et renforcé et peut-être regagne en assurance, en confiance et puis en solidité dans ses apprentissages. Un an, c'est toujours un petit peu juste pour à la fois se rescolariser, mener toutes les échéances de la classe de 3e et puis ensuite sortir et avoir une poursuite d'études robuste.
Donc je suis Agnès Mencaraglia et je suis la principale du collège Guy Maréchal. Effectivement, c'est un collège qui montre beaucoup d'intérêt puisque nous avons énormément de spécificités. Nous sommes un établissement, je pense qu'au niveau national, il n'y en a qu'un, puisque nous avons, sur 438 élèves, nous avons bien évidemment un collège type, mais classé REP+, donc qui accueille des élèves de quartiers prioritaires. Et à ça, nous rajoutons une SECPA, hein, constituée à peu près d'une bonne 50, un peu plus de 50 élèves d'enseignement spécialisé. Nous avons deux dispositifs relais. Ensuite, nous avons une UPE2A qui accueille des élèves primo-arrivants dont la langue maternelle n'est pas le français pour faciliter leur insertion et puis les amener vers une scolarité type. Et puis, nous avons deux ULIS, une ULIS des fonctions cognitives, donc ça plus classique en France, et une ULIS des fonctions auditives et des troubles spécifiques du langage. Et enfin, le micro-collège qui accueille un peu plus de 30 élèves, donc ouvert depuis plus de 3 années. Alors là, c'est vraiment très spécifique, puisqu'en France, il y en a une dizaine, hein, et qui concerne des élèves qui n'ont pas été scolarisés, qui a eu là une vraie rupture. En collège, on ne parle pas normalement de décrochage scolaire, puisque l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans. Et malheureusement, la réalité sur le terrain, ce sont des enfants qui peuvent avoir décroché depuis le primaire et qui n'ont pas remis les pieds à l'école pour X raisons.
Je m'appelle Nathan François, j'ai 14 ans et je suis au micro-collège Guy Maréchal. J'ai arrêté au micro-collège parce que j'ai eu un décrochage scolaire et des difficultés dans mes cours suite à du harcèlement. En fait, moi, j'avais décroché depuis 3-4 mois, j'allais plus trop en cours. Et avec mes parents, un jour, ma mère, elle est passée sur un site qui montrait les collèges d'Amiens et elle a trouvé un micro-collège et elle a décidé de m'y inscrire et j'ai été pris à la rentrée scolaire. Ça m'a, personnellement, moi, beaucoup aidé dans mes cours. Enfin, avant, j'étais complètement à la ramasse, si je peux dire. Et maintenant, je m'en sors beaucoup mieux. J'apprends plus vite, je trouve aussi. Et au niveau des horaires, du temps qu'on passe en classe et de l'expression, je trouve que c'est beaucoup mieux. En fait, avec nos professeurs, on a un lien qui, professeur et entre guillemets ami, si je peux dire. En fait, ils sont très à l'écoute de nous et quand on a des problèmes, tout ça, ils sont là pour nous aider. Donc, du coup, ça donne une confiance qui est plus supérieure que dans les grands collèges.
Alors, le micro-collège, lui, quand il a été ouvert, on a recruté Madame Croisé, notre coordinatrice. Ensuite, on a Monsieur Delinière qui coordonne les SRE sur l'académie, a recruté quelques personnes pour compléter l'équipe. Et puis, entre-temps, et ça, c'était une volonté vraiment de ma part, c'était d'intégrer des enseignants qui enseignent ici, de les intégrer au micro-collège pour justement que tous ces dispositifs soient un enrichissement collectif, qu'il y ait des partages de services et donc des partages de pratiques. Le dispositif est implanté, les collègues du collège type voient les pratiques et là, on a quand même 5 personnes du collège qui interviennent au niveau du micro-collège. Je ressens les effets bénéfiques. Il y a des envies d'expérimenter ce qui se passe au micro-collège sur le collège. C'est l'idée. À terme, c'est qu'à la limite, notre établissement devienne non plus une expérimentation, mais au service de tous.
Aurélie Magnin, professeure de SVT au collège Guy Maréchal et au micro-collège.
Anne-Sophie Caron, professeure d'histoire-géographie. Je suis au micro-collège depuis 2 ans et je suis arrivée en même temps aussi au collège Guy Maréchal.
Pour moi, je vois pas de différence. J'ai aucune différence dans ma façon de fonctionner et d'enseigner, que ce soit une heure avec le micro-collège ou une heure avec une classe type. Sachant qu'on est dans un collège REP+, avec quand même des profils et assez compliqués qui nous avaient demandé quand même déjà un gros travail de pédagogie. Donc finalement, pour moi, il y a pas de changement. Et la grande différence que je ressens, c'est plus le rapport qu'ils ont, eux, entre eux. Il y a moins de peur du regard des autres, je trouve, au micro-collège.
J'ai pas la sensation d'être foncièrement une enseignante différente de l'enseignante que j'étais ailleurs, dans la transmission des apprentissages, dans le travail des compétences. À la fois sur la question de l'exigence, je crois que je tiens absolument à maintenir mon niveau d'exigence et à confronter nos élèves au même niveau d'exigence que tout élève de 3e. Ça, je crois que c'est très important.
Vous regardez le participe, il est entre parenthèses, on regarde, on fait la flèche pour le relier au nom qu'il qualifie, on analyse, on prend le temps. Est-ce que j'ai du féminin, du masculin, j'accorde en genre. Est-ce que j'ai du singulier ou du pluriel, j'accorde en nombre. On ne se précipite pas pour faire l'exercice, on essaie de le réussir à fond.
Sur la pédagogie, alors enseigner à une classe de 17 qui ne sont pas toujours présents ensemble en même temps, donc parfois à 14, parfois à 17, ça modifie beaucoup le rapport à l'élève, ça modifie peut-être la posture d'autorité un peu traditionnelle, puisqu'on a l'opportunité d'entendre chaque élève, de faire parler chaque élève. Alors j'ai l'impression que mes cours sont peut-être plus vivants, plus investis par les élèves, beaucoup plus de participation et d'implication qu'ailleurs, parce que c'est rendu possible par le faible effectif. Je crois que je me détache bien plus qu'avant des programmes. On n'a pas vu tous les objets d'études, c'est pas grave. De toute façon, aucun élève ne les verra tous, puisqu'il y a des absences. Et ça, c'est le casus belli de la pédagogie. C'est un des éléments les plus complexes quand on enseigne en micro-collège.
La fièvre, c'est une fille, ok, mais l'enfant, pas forcément. C'est un mot épicène, enfant. Ça veut dire qu'il est aussi bien féminin que masculin, comme par exemple le nom élève ou le nom camarade ou le nom collègue.
Le cours avance. Quoi qu'il en soit, le cours avance. Même à 8, en cas d'absence massive, le cours avancera. Maintenant, on essaie de monter des séances à l'unité, en fait, avec bien sûr une articulation entre elles, mais avec l'idée que si l'élève revient mardi, avoir manqué la séance de lundi, c'est pas dramatique pour comprendre ce qui s'est passé mardi. Donc ça, je pense que c'est essentiel de pas interrompre un cours en plein milieu et de pouvoir avoir peut-être des activités plus courtes ou en tout cas calibrées à l'heure de cours ou à la séance de cours. On prévoit une pochette pour chaque absent. Ils peuvent rattraper assez facilement puisque tout leur est gardé, mis de côté. Les cours peuvent être imprimés et aussi tout est disponible sur notre plateforme Pronote, ce qui permet aussi de rattraper de cette manière. Après, entre les élèves, il y a quand même beaucoup d'entraide et si un élève demande un document, il sera toujours envoyé. Ça, c'est plutôt, ça aide aussi à la continuité. Mais je crois qu'il ne faut pas viser une continuité pédagogique à tout prix avec vraiment de l'articulation du lien entre chaque séance. Et une progression où il faut avoir le début pour pouvoir comprendre le milieu parce qu'en micro-collège, ça ne peut pas fonctionner. Ça mettra en difficulté un élève sur le retour, justement, alors que quand il revient, on est content, on le récupère, lui-même est content, et si en fait il revient et que c'est particulièrement dur et qu'il pédale pour rattraper, je pense qu'on échoue un petit peu dans l'accueil qu'on va lui faire.
J'ai une équipe, vraiment, je ne cesse de le répéter, très très volontaire, qui cherche toujours des solutions, une grande réflexivité. Par contre, moi, mon pilotage, c'est surtout l'équipe médico-sociale et psychologique de l'établissement. Ça demande un investissement énorme et c'est que chacun puisse continuer à travailler sans être trop submergé. Mmh. Le tout, c'est de faire qu'il n'y ait pas de maladie chez personnel. Parce que ça, c'est peut-être un risque. Ouais. Mmh. Là, à la limite, ils font tellement attention aux élèves qu'aujourd'hui, mon regard, c'est de faire attention aussi au personnel. C'est important.
Donc moi, je suis Madame Prudhomme, donc je suis infirmière au Collège Guy Maréchal, donc je suis à plein temps sur le collège. Au Collège Guy Maréchal, on a un temps plein et demi sur le collège, et donc on est deux infirmières, et un mi-temps sur les écoles du primaire. Et moi, j'ai une petite particularité, c'est que je vais un peu plus gérer les élèves internes. Donc j'ai un poste où je suis logée sur place.
Donc Angélique Leblanc, assistante sociale donc au collège Guy Maréchal sur 3 jours. Ça fait 6 ans que je suis sur le collège Guy Maréchal. Super expérience, très riche en REP+. faut préciser qu'aussi que le collège est en REP+. Du coup, ça nous apporte un panel aussi de partenaires avec qui on a la chance de travailler, ce qui est différent aussi en zone rurale. Et puis, voilà, la particularité, comme disait Thérèse, l'internat et le micro-collège. Voilà.
Alors, je dirais que déjà, notre premier, je dirais, c'est dans le recrutement. Hein. On est déjà, on fait partie de la commission de recrutement des élèves.
Dans le dossier de recrutement, il y a une fiche sociale et une fiche infirmière qui, est, du coup, nous est revenue pour étudier les situations en lien avec nos collègues infirmiers assistantes sociales sur les autres établissements scolaires.
Souvent, ce qu'on remarque, pour tous les jeunes qui vont pas, ils ont souvent une souffrance aussi psychique hein, en général. Et souvent, il y a aussi un parcours social qui est aussi compliqué. Pour pouvoir, si on travaille tous dans le même sens, on arrive à remettre les choses. Sinon, il y a toujours le jeune dans sa complexité d'adolescent va aussi tout manquement, je dirais, va se saisir de ça aussi pour pas réintroduire l'école. Vous voyez, donc c'est important qu'on ait une cohésion et vraiment une tous ensemble pour ramener le jeune aussi dans des attentes aussi. Hein. Et l'absentéisme scolaire, souvent, c'est qu'il y a eu quand même un quelque chose où le jeune s'est engouffré aussi, hein, même si voilà.
Au sein de l'équipe, on a une réunion de concertation une semaine sur deux, qui est vraiment importante. C'est le gros travail de l'adjoint qui a l'emploi du temps des collègues, en fait. Donc, qui est bloqué pour tout le monde, pour que tout le monde puisse assister. Donc, même les collègues qui font finalement peu d'heures dans la structure et qui sont moins présents sur les temps informels. Le temps informel au micro-collège, c'est un temps très important, je pense, dans tout établissement. Mais le temps de la pause récréation, le temps de la pause repas, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et ensuite, on a une communication par mail toutes les semaines, où en chaque fin de semaine, j'envoie l'agenda aux collègues de la structure, les grands temps forts de la semaine qui arrivent, et puis un bilan élève par élève de la semaine. Et pour moi, c'est un outil qui est important parce que chaque collègue reçoit ce document et ça crée un niveau d'information partagé. En fait, même le collègue qui fait qu'une heure peut avoir exactement le même niveau d'information que le collègue qui en fait 8. Et donc, le même suivi de l'élève, la même compréhension. Et c'est rapide, finalement. Ça se lit relativement vite. Et ça permet d'ajuster la prise en charge semaine après semaine.
Moi, je dirais que j'ai accepté de travailler au micro-collège plus pour le travail entre adultes que le travail avec les élèves, en toute honnêteté. La réflexion de comment on accompagne, quels sont les outils qu'on met en place, et ce qui me manque énormément au collège, mais du fait du grand nombre et le fait aussi de notre public quand même qui nous prend beaucoup de temps dans toute sa complexité, c'est d'évaluer en fait aussi ce qu'on fait, d'avoir des temps de bilan, est-ce qu'on continue, pourquoi, comment on modifie, enfin voilà, d'aller plus loin dans nos pratiques respectives.
Je crois que dans une microstructure, il y a une énorme liberté de fonctionnement. Et finalement, toutes les microstructures ont la même philosophie, je crois. Il y a un énorme commun autour de valeurs partagées et d'une volonté très forte des équipes de faire en sorte que ça fonctionne. On a des outils qu'on a bien sûr piochés dans les différentes rencontres qu'on a pu faire. On a passé beaucoup de temps au début de la structure à aller en visite, aller voir ce qui se passait en région parisienne, aller voir ce qui se passait même sur toutes les structures de retour à l'école de l'Académie d'Amiens, puisque l'Académie est riche en structures de retour à l'école, à lire des choses et après à adapter en fonction de nos besoins et de nos, peut-être parfois de nos identités professionnelles, nos souhaits. Je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui constituent la colonne vertébrale de la structure de retour à l'école. Le lien particulier à l'élève, on va dire, le décentrement de la posture professionnelle, je pense. En micro-collège, la coéducation avec les familles. En micro-lycée aussi, souvent, je pense. Je m'avance peut-être trop. L'évaluation, la démarche d'évaluation qui est réfléchie et concertée en équipe et qui fait l'objet d'une charte.
Je suis vraiment active. Avant, j'étais pas du tout active. Je levais jamais la main. C'était toujours sur mon bulletin. Emma ne lève jamais la main en cours. Elle ne participe pas dans sa bulle. Et depuis que je suis ici, je participe beaucoup. Sauf que le problème, en fait, j'aime pas avoir faux. Même si j'ai beaucoup de difficultés dans des matières, j'aime pas du tout avoir faux parce que des fois, les profs, ils me le font remarquer. Et puis, après, je me sens mal. Je me dis, je parle beaucoup trop avec les autres, faudrait que je me concentre plus et je me sens vraiment mal. Alors que les profs, ils m'ont fait seulement une toute petite remarque. Et après, je pense que chacun son caractère et du coup, c'est ça qui va me mettre énormément en stress. Après, je vais pas me sentir bien du tout.
Je m'appelle Luna Casper, je suis en troisième, Sophie Scholl. Je suis au micro-collège depuis le deuxième trimestre en quatrième. J'ai été déscolarisée pour la première fois en cinquième. J'ai loupé tout mon deuxième trimestre. Ensuite, j'ai fait du SAPAD durant pratiquement tout mon troisième trimestre. Et je suis revenue à 2-3 cours en fin d'année. J'étais dans un autre collège, j'étais à Montdidier. Ensuite, on m'a parlé de l'internat. On m'a dit que ce serait peut-être une bonne solution de venir ici dans le collège type, mais à l'internat. Au final, c'était encore pire, je me suis fait harceler ici. On m'a fait un changement de classe. Au final, c'était encore pire, le changement de classe était encore plus désastreux. Après, j'ai été hospitalisée. Et via cette hospitalisation, on a parlé du micro-collège, on a dit que ce serait vraiment la solution. Et quand je suis sortie, j'ai mis un rendez-vous. Et je crois que c'était genre le jeudi. Et on m'a dit, tu peux venir le lundi. Et à partir de ce lundi-là, je suis restée tout le temps. Et du coup, quand je suis arrivée ici, j'arrivais à avoir des amis. Ce qui a été compliqué pour moi depuis le début du collège. J'ai réussi à me faire des amis. Ma relation avec les professeurs, c'est, enfin, il y a aucun rapport entre les professeurs du collège type et les professeurs là. Alors, déjà, on les tutoie, on les appelle par leur prénom. Il y a moi, il y a la hiérarchie entre les professeurs et nous.
Camille Chaufflet, je suis professeur de mathématiques et je travaille en SRE depuis 6 ans maintenant. Je fais 2 ans de micro au lycée et je suis depuis l'ouverture au micro au collège. Je fais les maths et je fais aussi la physique. Donc je les vois 4 heures par semaine en maths, 1 heure en physique et ensuite je les vois 1 heure en tech. C'est le travail en classe. C'est une matière qui est un petit peu créée par le micro au collège et le micro lycée. C'était originaire du micro lycée. Où on apprend aux élèves à travailler, en fait. Donc ça peut être travailler sur une grosse leçon, par exemple, qu'il faut apprendre pour un contrôle. Ça peut être un travail de rédaction ou de recherche où ils ont besoin d'être un peu guidés. C'est vrai que c'est un peu particulier. D'ailleurs, il y a certains collègues qui ont plus de mal, justement, avec cette proximité avec les élèves. Parce que effectivement, ils nous tutoient, ils nous appellent par nos prénoms. Tous les élèves ont mon numéro de téléphone, par exemple. Je communique beaucoup avec eux dans les moments où c'est nécessaire. Donc ça crée un lien qui est très différent. Mais c'est un peu paradoxal parce que c'est vraiment peut-être ce lien qui fait qu'on peut se permettre vraiment d'être plus... comment je pourrais dire ? Pas offensif dans leur vie, mais parfois, sur certains moments, on sait quand on peut se permettre de justement être un peu plus dur avec eux, ou les moments où justement on sait que là c'est difficile et que c'est pas un manque de travail dans la classe, c'est juste que l'élève est pas en capacité psychique de suivre un cours correctement toute la journée. Le rapport qu'on a avec eux, ça change en rien le respect qu'ils peuvent avoir pour nous. Au contraire, il n'y a jamais aucun élève qui, jusqu'à maintenant en tout cas, a outrepassé le cadre quand même scolaire. Ils ont quand même bien conscience qu'on est proche d'eux, on est là pour eux, mais qu'on reste leur professeur et qu'il y a quand même un cadre hiérarchique presque, je pourrais dire, et qu'il ne faut pas dépasser, donc il faut respecter.
Après, il y a des choses un peu perturbantes, mais je sais pas. Le fait qu'on mette notre téléphone dans une boîte, c'est super bizarre. Alors, même si, au final, c'est un truc qui nous perturbe tous, le fait de poser son téléphone le matin, et qu'on essaye tous de trouver des solutions pour pas le poser. Mais au final, c'est pas plus mal, parce qu'on voit quand on a nos téléphones, le lien qu'on a, il est totalement biaisé parce que, moi j'ai rarement mon téléphone pour le coup, mais les personnes qui gardent leur téléphone, souvent, c'est pour jouer, etc. Donc au final, on se parle plus et donc c'est largement mieux qu'on ait pas nos téléphones parce que, on se parle. Sinon, on aurait eu le droit d'avoir le téléphone au micro, on aurait passé notre année sur notre téléphone.
Est-ce que je peux avoir mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je pars en avance et j'ai jamais le temps de...
Et comment vous faites le lundi?
Bah en fait, le temps de descendre et tout, je te jure que la dernière fois, on est sorti on est sorti à l'heure de la sonnerie et c'était mort. On a loupé le train. On a dû prendre celui d'après.
Quand on passe de récré enfermé à on est au micro-collège, on n'a pas notre téléphone, mais on a des jeux société, on parle entre nous, on a une salle de vie, donc on n'est pas obligé de sortir parce que pour certaines personnes, c'est Enfin, maintenant, en troisième, il n'y a plus grand monde qui sont vraiment empêchés par le fait d'aller dehors. Mmh. Parce qu'il y en a qui, je crois, qui ont des phobies sociales. Moi, c'est pas une phobie sociale, mais comme j'ai été scolarisée dans ce collège et que j'ai été harcelée dans ce collège, c'est super compliqué de sortir. Genre, rien que sortir pour juste pour sortir des cours parce que c'est fini. Des fois, c'est compliqué parce que, du coup, on croise les personnes des visages, etc. Genre, du coup, il y a déjà eu des moments où on parlait du fait de retourner dehors parce que, au lycée, on sera bien obligé. Mais au final, on a pratiquement tous fait des bancs d'essai dans les lycées. Donc, on sait plus ou moins comment ça va se passer. Et je crois qu'aucun de nous, ça l'a vraiment perturbé, le fait d'être entouré. Surtout qu'au lycée, on ne sera pas du tout dans les mêmes conditions. On n'aura pas une cour de récré. On devra tous être entassés avec des gens qu'on ne supporte pas, etc. Voilà.
Un aménagement global pour l'ensemble des élèves, ce serait peut-être la flexibilité de la structure sur le temps de la pause méridienne et des récréations. On a très peu d'élèves qui sortent en récréation. Alors, nous avons du mal à aller dans la cour avec les autres élèves, parce que ça représente beaucoup de monde et parce qu'il y a une forme de confort à être à l'intérieur, dans leurs repères. Alors, ils lisent, ils discutent, ils travaillent, ils échangent, ils vivent ensemble, mais sur l'intérieur. Et ça, je crois que c'est quand même une très grande majorité de nos élèves qui utilisent cet aménagement-là. L'objectif, c'est une scolarité adaptée à chacun. On peut moduler, par exemple, certains temps, comme le temps de projet qui parfois est complexe pour certains élèves qui ont du mal à s'insérer dans le collectif, ou moduler sur certains temps pour des élèves qui ont besoin de repos, pour lesquels la fatigue d'une semaine complète est trop grande. Donc après, les choix d'emploi du temps qui sont faits, ils sont faits individuellement, au cas par cas, à la loupe. Ils sont réajustés aussi souvent que nécessaire et que possible.
Je m'appelle Emma, j'ai 13 ans et du coup je suis en classe de 4e germain au collège Guy Maréchal. Car j'allais plus du tout en cours, je suis vraiment tombée en phobie scolaire car je me sentais pas forte à l'école et j'étais vraiment mise à l'écart et du coup ça... Comment dire ? Je voulais plus du tout y aller, j'avais toujours du stress avant d'aller à l'école, jusqu'à en pleurer ou même sécher les cours. J'inventais des maladies pour pas y aller, et puis évidemment c'est parti trop loin, et du coup ma mère, elle a trouvé un rapport avec le micro-collège. Déjà l'infirmière, on a un bon rapport avec elle et le micro-collège, parce que du coup on y va souvent. Et aussi, vu que je suis à l'internat, je la vois tous les soirs pour prendre mes médicaments et tout. Et puis franchement, l'infirmière, c'est une personne assez sympa. On peut vraiment discuter avec elle de tout ce qui nous dérange et ce qui va pas. Et puis elle fait de son mieux pour nous aider. Et c'est comme les profs. Les profs, il y en a peut-être des élèves qui vont pas s'entendre avec eux. Mais même si on s'entend pas avec eux, on peut toujours leur parler comme si c'était... un peu notre ami, on a vraiment des bons rapports avec les adultes.
La communication, c'est essentiel. Ouais. Et ils le savent, les familles, les jeunes. Ouais. De toute façon, on est toujours très clair avec eux. L'information vient de la cellule de veille ou de la réunion. Et puis même Emma est aussi très très claire. Je vous oriente vers l'assistante sociale ou l'infirmière. Toujours dans la bienveillance, la confiance. Parce que c'est important, ça c'est la base. Mm. S'ils n'ont pas confiance, on n'arrivera pas à travailler avec eux. Et en fait, ça devient quelque chose de systématique, assez banal. Ils relativisent énormément. J'ai rendez-vous avec l'assistante sociale, mais je sais qu'elle va pouvoir m'apporter quelque chose. J'ai rendez-vous avec l'infirmière scolaire, mais je sais qu'elle pourra m'apporter quelque chose. Donc ça, c'est la confiance, c'est indispensable.
Si on était que nous en tant que personnel, on s'en sortirait pas. Parce que c'est vrai que l'accompagnement au quotidien, c'est quand même beaucoup les tuteurs des élèves en classe.
Emma et Camille font un gros, gros travail.
Un énorme travail, Camille, et puis tous les enseignants qui sont tuteurs, parce qu'ils ont tous un tutorat. Et ils font un énorme travail, je dirais, au quotidien.
Le tutorat, c'est quelque chose qui crée un lien encore particulier, encore davantage avec certains élèves. C'est un temps d'échange hebdomadaire avec les élèves. Parfois, ça peut être plutôt rapide. Quand tout va bien, entre guillemets, on échange un petit peu sur comment ça se passe la semaine au collège, est-ce que ça se passe bien avec les camarades ou à la maison. Est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées dans la classe, dans les apprentissages ou en dehors, même dans la vie privée. Donc, quand tout est positif, ça va plutôt vite. Ça fait du bien quand même parfois aussi aux élèves, même si tout est positif, de l'entendre. avoir un retour aussi du côté des profs, parce que nous, on discute beaucoup aussi de nos élèves. Et donc, avoir ce retour dans la semaine de « bah oui, tel prof m'a dit que ça s'était très bien passé dans le cours ou que tu avais fait des progrès dans telle matière », ça valorise un peu l'élève et puis ça l'encourage aussi à poursuivre ses efforts. Et dans d'autres situations où c'est plus complexe, là, le tutorat peut durer plus longtemps, voire même être... C'est normalement un temps qui est fixé dans la semaine, et donc c'est toujours au même moment. Mais parfois, bon, bah, c'est aussi à la demande. Si le tutorat est fixé le jeudi ou le vendredi, mais que le lundi, ça va pas du tout, les élèves viennent nous voir et nous demandent est-ce qu'on peut parler tout de suite. Et donc on trouve un moment, on échange avec eux, et ça permet de libérer des situations qui sont parfois des situations problématiques au collège, ou parfois en dehors avec la famille, ou des amis dans la cour, ou en dehors du collège, et on essaie de trouver des solutions pour libérer l'esprit. Je pense que justement, la proximité avec les élèves, elle est nécessaire pour qu'ils arrivent à se livrer vite à nous. C'est un tour de magie. Hein. Au début d'année, quand on leur parle de tutorat, ils sont très fermés à l'idée. La plupart sont même dans le refus parfois d'avoir un échange avec un adulte sur leur situation. Hein. On a des élèves qui refusent d'avoir un suivi psychologique alors qu'ils en ont besoin. Et puis finalement, ce lien de confiance qui se crée rapidement dans l'année et puis qui se fortifie au fur et à mesure du temps, ça les pousse un peu à se confier. Mais il n'y a jamais aucun élève qui est forcé à parler. Ça se fait naturellement. La plupart sont finalement en demande de se confier. Ils n'ont juste pas trouvé le bon interlocuteur, ou ils n'ont pas encore cette personne de confiance à proximité ou à disposition. Et donc, quand on arrive, souvent, il n'y a pas beaucoup de choses à faire avant que ça se libère. Bon. Alors, comment ça s'est passé, du coup, ta semaine ?
Ça va, c'était bien dans l'ensemble.
Ouais. Il y a eu les résultats du brevet blanc qui sont tombés. T'as déjà eu toutes tes notes ?
Ouais, j'ai vu.
Ouais, et ça, tu te situes comment du coup pour l'arrivée du DNB ?
Je pense pas que je vais l'avoir.
Pourquoi tu l'aurais pas du coup ?
Parce que j'ai des mauvaises notes et puis des fois j'abandonne souvent.
Ouais. Ton contrôle continu, on en a déjà parlé. Hein, on regardera les points si tu veux après. Nous on a regardé combien tu peux avoir. Ton DNB, il est encore abordable. Après tu sais, c'est sur quoi que tu vas devoir travailler en priorité ?
Les maths, l'histoire, ouais. Le français aussi.
Ouais, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Tu peux avoir des points beaucoup très vite.
À l'oral.
Ouais. Ton oral, ça va être décisif. Hein. Donc il faut vraiment que tu mettes un gros coup de collier sur l'oral et que ce soit carré. Hein.
Mais demain, avec Léla, on a décidé de rester. Enfin, moi, je restais au moins 1h30 ou 2h. Puis je vais travailler mon oral. Ouais. Parce que, voilà, comme ça, au moins, j'aurai plus de points.
C'est une bonne idée de travailler avec Léla, parce qu'en plus, au niveau des questions, elle est super incisive. Ouais. Hein. Donc, à mon avis, les questions que Léla va te poser, ça m'étonnerait que le jury soit aussi méchant, entre guillemets, sur les questions. Elle est très fine. Hein. Donc, après, tu te braques pas. Hein. Tout ce que, justement, chaque question qui va être posée, si t'arrives pas à répondre, tu lui dis. Hein. Léla, là, je sais pas. Toi, tu le marques. Cette question-là, je sais pas répondre. Et après, t'as le week-end pour essayer de réfléchir à comment est-ce que j'aurais pu répondre. Ça va te permettre de compléter un peu tes connaissances sur le sujet, là. Et puis d'être formé au mieux. Après, vous avez fait quand même pas mal de passages.
Ouais.
Ensuite, t'as gardé le même qu'à l'oral blanc. T'avais eu combien à l'oral blanc ?
71, 72.
Ouais. Donc tu peux avoir plus de 80.
Ouais.
80 points, c'est bien. Il t'en manque pas tant que ça de points. Après, tu sais que ça va jouer sur la combativité que t'auras aussi sur le jour des épreuves. Ça, on aura encore le temps d'en travailler. On aura encore un mois pour travailler dessus après. Mais ça va être, si j'arrive, que je suis 2 heures et que je fais rien, ça va pas passer. Si t'es 2 heures et que t'essayes de faire un maximum de choses, et ça on vous l'a toujours dit, hein, plus votre copie a des choses d'inscrites dessus, et plus les points, même si c'est un point par-ci, par-là, hein, mais quand tu les cumules sur toute une copie, t'as fait ça pendant 2 heures, si tu passes de 20 à 35, ça fait une grosse différence.
Donc, je m'appelle Evan Flamand, je suis en 3e chevaux, j'ai 15 ans, voilà. Je suis arrivé milieu 4e, où je crois que c'était fin février, quatrième. Puis après, je suis resté troisième. Parce qu'avant, j'avais des problèmes dans mon ancien collège, je me suis harcelé, j'avais des problèmes avec des autres camarades. En fait, c'était un peu souvent de l'harcèlement, des moqueries. Voilà, c'était l'adolescence. Du coup, j'ai commencé à avoir une dépression, j'ai été hospitalisé, tout ça. Voilà, ça va super bien depuis que je suis au micro-collège et je me sens vraiment en sécurité ici. Les uns les autres, tout ça, donc ce serait bien.
Exactement. Voilà. Il n'y a rien d'autre qui te stresse ?
Le brevet, puis... Ouais, c'est tout.
C'est tout.
Aussi, l'oral, ouais, puis c'est tout.
Ouais.
ça. J'ai eu la rando, on va y être. Ça va être un moment aussi où ça va vous permettre de souffler. Ça va faire une coupure par rapport au cours. Par contre, on rentre vendredi. Le samedi, on prend un peu de temps pour souffler et on se remet sur l'oral vite, hein, parce que ça va arriver tout de suite derrière. Voilà. Et puis, une fois que ça s'est passé, une fois que l'oral est passé...
Et après aussi, la relation au prof, qui est totalement différente, car on est vraiment... Enfin, on se sent vraiment écouté. Moi, c'est plus comme des... presque comme des amis, en fait, parce que c'est... Parce que déjà, ils sont jeunes. Donc finalement, la proximité est plus grande qu'avec un prof qui a 70 ans alors que t'en as 15, quoi. Même la manière de penser, où ils sont très ouverts d'esprit. Et même quand ils comprennent pas quelque chose, ou en tout cas, même quand ça leur est pas familier, ils t'acceptent quand même et ils vont faire des efforts pour essayer de se comprendre. Par exemple, il y en a certains qui ont des problèmes de santé ou de l'autisme. Et certains profs comprenaient pas ça au début ou pouvaient un peu bloquer sur ça. Ce qui fait que, alors que maintenant qu'il y a des bonnes discussions et qu'il y a eu du dialogue, il n'y a plus aucun problème. Voilà. C'est des vrais rapports humains et pas juste des gens qui viennent et qui te disent et qui te racontent et qui viennent chercher leur salaire. Quoi. C'est des vrais gens qui sont vraiment dévoués et qui aiment leur travail.
Par rapport aux familles, oui, il y a des temps forts de rencontres qui jalonnent l'année. En fait, on a une réunion de rentrée en septembre qui est comme un moment collectif avec l'ensemble des familles qui peuvent se rencontrer, parfois échanger, qui est un temps important, donc tout début septembre. Ensuite, nous avons 4 conseils de progrès. Un premier conseil de progrès en milieu de première période, en fait, fin septembre, parfois début octobre, pour faire un petit bilan de rescolarisation et se fixer des objectifs et voir si l'emploi du temps tel qu'il est est adapté et quels aménagements, au contraire, pourraient être utiles pour l'élève. Ensuite, on voit la famille à chaque fin de trimestre pour la remise des bulletins, donc sous forme de nos conseils de progrès. Et après, il y a une fête de fin d'année qui est un moment aussi solennel qu'émouvant et les familles se déplacent aussi volontiers et c'est de nouveau un moment collectif pour ponctuer l'année. Et puis sur la communication, alors on utilise très peu l'UNT parce que c'est pour nos élèves, c'est encore c'est un filtre en fait, pas forcément simple et ils ne fréquentent pas trop. On utilise la boîte mail des parents en fait, on a une liste de diffusion, on communique avec les parents par mail, il y a beaucoup d'informations qui sont distribuées, parfois des photos qui peuvent être envoyées. On essaie d'appeler les familles régulièrement quand il y a un souci, quand on sent que le jeune ne va pas bien, ou au contraire, quand il y a des progrès, quand on note des choses particulièrement positives, on essaie de prendre le temps de rappeler. Alors, effectivement, il s'agit de prendre le temps, parce que c'est pas toujours... On a le réflexe inverse, hein, de rappeler quand ça va pas, mais on aime bien appeler pour dire « c'est super en ce moment ».
Christophe Lerns, je suis le papa de Valentin qui est élève en quatrième depuis donc, cette année au micro-collège. Valentin avait des difficultés de scolarité. Alors c'est marrant parce que le micro-collège dit c'est pour les élèves décrocheurs. En fait, nous, Valentin, il n'avait jamais vraiment accroché à l'école. En fait, il n'est pas décrocheur, il s'est jamais vraiment rentré dans le système scolaire depuis la maternelle. Où il a été assez tôt détecté dyslexique et dysorthographique. Bon, ça, c'est une chose. Mais il a aussi beaucoup de difficultés, alors qui sont liées à son trouble, mais pas que, difficultés à se motiver, à avoir envie d'être... Il aimait pas vraiment beaucoup l'école, quoi. Et donc, on a essayé pas mal de choses, notamment, il a commencé son collège en Montessori. Ça n'a pas été une très bonne expérience, pas par rapport au système Montessori, mais là, le collège Montessori, où il était, où ça s'est même plutôt mal fini. Et puis, on a entendu parler du micro-collège par le bouche-à-oreille. Donc, on est venu voir la structure, rencontrer... l'équipe, et puis on a bien aimé le fonctionnement, donc on a monté le dossier pour que Valentin puisse participer au micro-collège. Il a été pris cette année, donc le voilà ici cette année. Mais. D'expérience de sa scolarité, en général, la fin d'année, c'est une catastrophe. Là, c'est en fin d'année, on sent vraiment que ça y est, il se réveille, qu'il se passe quelque chose. Alors ça a été long, il a fallu... là, on est au mois de mai, de septembre à mai quasiment, mais... ce qu'on a avec sa maman, ce qu'on a beaucoup apprécié dans cette structure, et c'est la première fois donc depuis la maternelle, c'est qu'ils ne l'ont absolument jamais lâché. C'est-à-dire que Jusque-là, on avait des enseignants qui, au début d'année, comprenaient qu'il avait un profil un peu particulier et compliqué, donc ils étaient motivés pour l'aider, pour l'accompagner, pour nous aider aussi, nous, en tant que parents. Et donc, au début, ça partait, alors on mettait des choses en place, et au bout d'un moment, en général, décembre, janvier, février au plus tard, l'enseignant, mais alors, ce que je peux comprendre, hein, parce que il y a une classe à gérer, il y a plein de choses, l'enseignant lâchait l'affaire en fait et abandonnait Valentin. Et là, en fait, c'est la première fois que on s'est vu régulièrement. Dès que Valentin décrochait un peu, il nous demandait de venir. Donc voilà, les parents, c'est un investissement aussi pour les parents. Parce qu'on est hyper sollicité par l'équipe, c'est plutôt positif. Donc voilà, on est venu en réunion, on a recadré avec lui, on a trouvé des solutions. Et on a eu plusieurs fois des enseignants qui nous disaient « mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Donc en fait, on se retrouvait avec des enseignants qui nous demandaient quoi faire, alors que bah, en fait, ça aurait peut-être été plutôt l'inverse. En fait. Et là, bah, on ne nous a pas demandé ce qu'il devait faire. On nous a demandé, bien sûr, de l'appui, mais on nous a jamais demandé qu'est-ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que c'est les enseignants ici qui ont vraiment travaillé sur l'accompagnement de Valentin, qui l'ont adapté, qui ont changé, qui l'ont motivé, qui l'ont poussé. Et sans jamais le lâcher, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Et on ressent aujourd'hui les fruits au mois de mai, où il est motivé, où il est content de venir, de rentrer, de dire qu'il a eu une bonne note dans une matière, qu'il s'est concentré pendant une journée, deux journées, une semaine, qu'il a eu des félicitations parce qu'il avait passé une bonne semaine. Voilà, des choses qu'on n'avait jamais avant. Et ça a été... Ça a été long, on se doutait bien que trois jours après son entrée au micro-collège, il n'allait pas se transformer. Et il a fallu, ça dépend, j'imagine, des élèves, lui, il a fallu plusieurs mois. Voilà. Et donc, je pense que là, c'est bien parti. On verra à la rentrée pour sa troisième comment ça va se passer. Mais en tout cas, là, ça se passe vraiment bien. On voit qu'ils essayent de mettre en place un environnement bienveillant et c'est plutôt chouette.
Peut-être que j'ajouterais que c'est un très grand plaisir de travailler en micro-collège, que c'est une très grosse charge. Ça nécessite beaucoup d'énergie psychique, mentale, physique. Et qu'on espère qu'on aura de moins en moins d'élèves et qu'on espère que peut-être ce qu'on fait en micro-collège, ce qu'on produit comme expérimentation, puisqu'on est encore dans l'ordre de l'expérimental, de l'innovant, pourrait... et s'aimer sur le commun, sur le champ ordinaire, pour nous permettre, nous, d'avoir plus de raisons d'exister.
Alors que la coordonnatrice, Emma Croiset, fait le vœu pieux que les micro-collèges et les micro-lycées ne soient plus nécessaires et que l'école puisse garder tous les jeunes dans un cadre leur permettant d'évoluer sereinement, force est de constater qu'aujourd'hui, les structures de retour à l'école sont un vrai besoin pour les jeunes en décrochage. D'ailleurs, en 2022, le président Emmanuel Macron a inauguré 10 micro-collèges dans le cadre de son plan d'urbanisme Marseille en grand. Dans ces établissements, les élèves de 4e en situation de décrochage se sont vus proposer une affectation au micro-collège pour leur année de 3e. Et sur le plan pédagogique, l'objectif est d'obtenir le certificat de formation générale ou le brevet professionnel. Tout au long de l'année, les efforts sont concentrés sur la préparation à un apprentissage ou à un CAP initial. Et pour certains élèves de ces micro-collèges marseillais, l'orientation vers un bac professionnel, voire un bac général, est également envisagée. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier très chaleureusement tous les élèves pour leur confiance et leur témoignage sincère et poignant. Merci à Emma Croiset et à tous les enseignants pour leur disponibilité et pour les discussions passionnantes que nous avons pu avoir. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopée pour le mixage de l'émission. Le mois prochain, le micro est dans la classe vous sera proposé par Maë Burla et cette année nous serons deux à réaliser ce reportage qui vous emmène chaque mois sur les bancs de l'école afin de vous faire découvrir ses multiples facettes. À bientôt !